Chapitre 24. 2 octobre 1998, 12h32. Un fragile rayon de soleil salua Marc lorsqu'il sortit du RER, station Val d'Europe, place d'Ariane. C'était la première fois que Marc mettait les pieds dans la ville nouvelle, inaugurée quelques mois plus tôt. L'immense place rond le stupéfia. Il s'attendait à découvrir une ville nouvelle moderne, high-tech, dans le style de Cergy ou Évry. Il se retrouvait au centre d'une place haussmannienne, copie conforme de celle des premiers arrondissements parisiens. Sauf que la place n'avait pas 100 ans, mais moins de 100 jours. Du neuf imitant du vieux. Plutôt bien d'ailleurs. Devant lui, au-dessus des gouttières et des gargouilles en toc, s'élevaient des grues. Arlington Business Park, indiquait un panneau. Les tours de verre inachevées du quartier d'affaires dépassaient déjà de plusieurs dizaines de mètres la vieille place de pacotille. Marc tourna la tête. Au loin, derrière la rocade, il distinguait les sommets de Disneyland, le clocher du château de la Belle au bois dormant, les pierres rouges du train de la mine, le dôme de Space Mountain. Une vision surréaliste. C'est sans doute ce qu'avaient souhaité les urbanistes, pensa Marc. Une bribe de conversation au Paulet, chez Nicole, lui revint en mémoire. C'était un soir, il y avait quelques mois de cela, après un reportage du journal télévisé sur la ville nouvelle orchestrée par le consortium Disney, à l'occasion de l'inauguration du centre commercial. Nicole avait pesté dans la cuisine.
« Déjà, je ne comprends pas qu'on puisse emmener des gamins chez Disney pour enrichir ce rat capitaliste de Mickey, mais si maintenant, en plus, on leur file des terrains pour construire des villes chez nous... »
Lily débarrassait la table. Comme toujours, elle en connaissait plus qu'eux.
« C'est aussi une utopie, mamie. Sais-tu que Walt Disney lui-même avait rêvé en Floride d'une ville idéale, célébration, sans voiture, sans ségrégation, sous un dôme pour contrôler le climat. Mais il est mort avant et le projet a été dénaturé par ses héritiers. Val d'Europe est la seconde ville au monde construite par Disney. La seule en Europe, la plus jeune ville de France, 20 000 habitants. Tu parles d'une utopie ?
Avait commenté Nicole.
Des pavillons à 3 millions, un golf, des écoles privées.
Lily n'avait rien répondu. Marc se doutait qu'elle aurait aimé argumenter sur le concept de la ville, l'urbanisme, les espaces verts, les défis architecturaux, la gestion douce des déplacements dans la commune. Mais Lily s'était tue, comme toujours. Elle avait souri en saisissant un torchon pour aider Nicole. Elle s'était contentée d'en reparler à Marc le soir, brièvement. Tous savaient que les Carville habitaient Couvray, l'un des jolis petits villages voisins du Val-de-Marne, dont la tradition si française avait parfaitement été intégrée dans le projet américain de Val d'Europe, faisant plus encore flamber les prix de l'immobilier. Tradition et modernité. Marc marchait. Le quartier avait été pensé pour les piétons, rien à redire sur ce plan-là. Couvray était à peine à 2 kilomètres. Il parvint place de Toscane. Il sourit à la vision de la fontaine sculptée, des terrasses et des cafés couleur terre de Sienne. Il n'était jamais allé en Italie, mais c'était bien ainsi qu'il s'imaginait une place florentine ou romaine idéale, même en plein hiver. Pour un peu, il se serait attendu à apercevoir la belle et le clochard, occupés à déguster des spaghettis à une table. Il continua d'avancer d'un bon pas. Même si la ville avait été pensée pour les piétons, ils étaient plutôt rares. Marc traversait à présent le quartier du Golfe. La mode était ici au cottage anglais. Beaux windows, bois vert et pourpre, fer forgé. Marc avait le sentiment d'avoir traversé une Europe de cartes postales en moins de 2 kilomètres. Des petits pavillons plus classiques, quoique cossus, lui indiquèrent qu'il approchait de Couvray. Il observa une série de panneaux plus familiers. Mairie, école, salle des fêtes, bibliothèque, musée de la maison natale de Louis Braille. Jennifer lui avait fourni l'adresse des Carville, chemin des Chauds-Soleils, une impasse en bordure de la commune au milieu du bois de Couvray. Couvray s'était développé dans un méandre de la Marne, enserré au sein d'un écrin de forêt préservée. Le canal de Meaux à Chalifère formait une sorte de frontière pour la commune, traçant une ligne droite pour raccourcir le cours de la Marne. Il ajoutait un pittoresque supplémentaire à ce coin de paradis bucolique, à quelques kilomètres de la capitale. trois pêcheurs étaient assis sur le muret de pierre surplombant le canal. Écluse de Lèche, lut Marc sur un panneau brun. Il ne résista pas plus longtemps. L'endroit lui sembla idéal pour faire une pause, s'asseoir, sortir de la poche de son jean les 5 pages arrachées au cahier de Grand-Duc. Marc n'avait pas eu le courage de les lire dans le RER bruyant, au contact d'inconnus lorgnant par-dessus ses épaules. Pas cette partie de l'histoire, la sienne. Il avait retardé l'échéance. Il vérifia son téléphone, aucun message de sa grand-mère, aucun message de Lily. Il n'avait plus d'excuses. Il déplia les 5 feuilles. Journal de Crédule Grand-Duc. Ce dimanche-là, le 7 novembre 1982, j'avais passé le week-end à Antalya, sur la Méditerranée, la Riviera turque, 300 jours de soleil par an, chez un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur turc qui me recevait dans sa résidence secondaire. Des semaines que je lui courais après. Je voulais encore vérifier si personne n'avait rien vu dans l'aéroport Atatürk d'Istanbul le 22 décembre. On ne sait jamais. Une caméra de surveillance, un incident quelconque. L'aéroport était truffé de militaires à l'époque. L'un d'eux avait pu remarquer quelque chose. Je cherchais à faire passer un bref questionnaire dans les casernes, et bien entendu, on me prenait pour un dingue. De guerre lasse, le haut fonctionnaire en question avait fini par m'inviter un week-end où il recevait chez lui tout le gratin de la sécurité nationale turque. Pour une fois, Nazim n'était pas là, mais Hila avait insisté pour qu'il rentre. Elle était tombée malade, je crois me souvenir. Ça ne m'arrangeait pas, au contraire. J'avais galéré tout le week-end sans interprète à expliquer ce que je voulais. Surtout que les autres étaient là pour se la couler douce au soleil avec leurs femmes. Pas convaincu du tout du caractère prioritaire de mes demandes. Moi non plus d'ailleurs, de moins en moins. J'ai appris l'accident du Tréport 3 jours plus tard, à l'hôtel Ascoq. C'est Nazim qui m'avait prévenu. Depuis, j'ai beaucoup discuté avec Nicole Vitral. Elle m'a expliqué tous les détails. Ce week-end de novembre 1982, comme tous les ans, les 3 villes sœurs normandes et picardes, le Tréport, eux et Mer-les-Bains, organisaient leur fête de la mer, une sorte de carnaval de Dunkerque en plus timide, version normande. Moules frites à volonté, promenade en bateau, défilé dans la rue, un monde fou sorti d'on ne sait où. Pierre et Nicole Vitral participaient à la fête du Tréport tous les ans, tout comme ils essayaient de suivre toutes les autres manifestations des ports de la Manche, de Dunkerque au Havre. En dehors de l'été, c'était surtout grâce à ces week-ends festifs qu'ils parvenaient à joindre les deux bouts. Ils confiaient Marc et Émilie aux voisins et partaient pour une nuit avec le Citroën de type H, orange et rouge. Ils garaient le camion dans les endroits stratégiques, le plus près possible de la mer, ouvraient le comptoir, la bâche coupe-vent si besoin, et commençait moins d'une heure après à servir frites, crêpes, gaufres et autres chichis. Généralement, il travaillait jusque tard dans la nuit. Malgré le climat, les fêtes dans le nord se terminaient souvent à l'aube. Pour ne pas perdre de temps et d'argent, Pierre et Nicole refermaient alors le camion, étalaient un matelas entre le four à gaz et les frigos. Il y avait juste la place, et dormaient là, quelques heures, avant de reprendre le service le dimanche. C'était spartiate, mais en un week-end, il gagnait davantage qu'en 10 jours habituels. Le dimanche 7 novembre 1982, Pierre et Nicole Vitral refermèrent le camion vers 3 heures du matin. Ils ne le rouvrirent jamais. C'est un type qui promenait son chien sur la digue du Tréport qui donna l'alerte. L'odeur de gaz se sentait jusqu'en dehors du camion malgré les embruns. Enfin, l'odeur du mercaptan plutôt. Le produit à base de soufre qu'on ajoute au butane, car cette saloperie de gaz naturel est inodore et incolore. Les pompiers firent sauter la porte du camion par l'arrière d'un coup de hache et découvrirent les 2 corps inanimés. Le butane s'était échappé depuis 5 heures au moins, dans un espace confiné de 9 mètres carrés. Pierre Vitral ne respirait plus. Les pompiers n'essayèrent même pas de le ranimer. Ils savaient reconnaître les symptômes de la mort. Nicole Vitral vivait encore. Elle fut transportée d'urgence à Abbeville. Les médecins n'annoncèrent qu'elle était définitivement sauvée que 15 heures plus tard, les poumons rongés pour le restant de ses jours. L'enquête ne traîna pas. L'un des tuyaux de gaz des 4 fours était percé. L'accident était aussi stupide que prévisible. Les assurances furent fidèles à leur réputation de profonde humanité. Dormir dans le camion, coincé entre les bouteilles de butane et les fours encore chauds, était, selon elles, pure folie. L'installation était vétuste, certes autorisée par les services sanitaires, mais les experts dénichèrent d'autres vices. Bref, les assurances n'eurent aucun mal à trouver toutes les excuses pour ne rien rembourser à Nicole Vitral. Il ne lui restait que le camion, un tuyau de plastique et une porte arrière à changer, et 2 gosses à élever. C'est peut-être cela qui m'a rapproché des Vitral, la pitié. Oui, on peut appeler ça ainsi, la pitié. Il n'y a pas de honte à cela. La pitié et le soupçon aussi. Lorsque Nazim m'appela pour me raconter ce qui s'était passé au Tréport, ma première réaction fut de ne pas croire à la thèse de l'accident. D'accord, le destin est comme les gamins dans la cour de récré, il s'acharne sur les plus faibles. Mais il y a des limites. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai rencontré les avocats des Carville. Certains, pas spécialement fiers, ont craché le morceau. Avant son second infarctus, Léonce de Carville avait fait plancher ses avocats sur une question purement technique. Et si les époux Vitral venaient à disparaître, que se passerait-il? La petite Lily restait-elle une Vitral que l'on placerait dans un foyer, ou un recours était-il possible? Dans ce contexte nouveau, quelles étaient les chances que la petite soit confiée aux Carville? La question était aussi morbide qu'épineuse. Mes avocats n'étaient pas franchement d'accord entre eux, mais l'idée générale était que, si les Vitral venaient à disparaître, et si la petite Lily avait moins de 2 ans, un nouveau jugement était possible. « Simple hypothèse technique », précisait-il, « mais on pourrait jouer à la fois sur le doute concernant l'identité et sur l'intérêt supérieur de l'enfant, quitte à chercher une famille d'accueil à la jeune orpheline, autant la rendre au Carville. » Je vous livre ça en vrac, faites-en ce que vous voulez. Si Mathilde de Carville était assez folle pour engager un détective privé pendant 18 ans, son mari, moins patient, pouvait bien avoir eu l'idée de son côté d'engager un tueur. Percer un tuyau de gaz dans un camion qui ne ferme qu'à moitié devait être à la portée du moindre type sans scrupule. Je n'ai jamais cru que Mathilde de Carville ait pu être au courant, encore moins avoir manigancé une telle entreprise. Rien que sa religion devait le lui interdire. Léonce de Carville, par contre, en était tout à fait capable. La seconde crise cardiaque le brisa 23 jours plus tard. On pourrait y voir un rapport de cause à effet. Nicole Vitral avait survécu. Peut-être avait-il sur la conscience la mort de Pierre Vitral. Pour rien. Lise Rose était définitivement morte. Voilà. Vous en savez autant que moi. Le légume qui est devenu Léonce de Carville conservera pour toujours son secret. Le doute doit-il lui bénéficier? Sacrée question. 2 octobre 1998, 12h40. Marc regarda le fragile soleil d'automne se laisser à nouveau cerner par des nuages en bandes bien organisées. Le doute. Il n'avait que 4 ans au moment de l'accident. Marc ne se souvenait de presque rien, si ce n'est de l'infinie tristesse des grandes personnes autour de lui. Et lui, qui n'avait qu'un seul but, qu'un seul réflexe, protéger Lily, lui serrer très fort la main, ne pas la quitter, ne pas la laisser. Sa grand-mère ne lui avait jamais donné beaucoup de précisions. Il comprenait. On ne reparle pas de ces choses-là. L'exposé de Grand-Duc était beaucoup plus clair que toutes les bribes d'informations qu'il avait pu glaner au fil des années. Marc observa les 3 pêcheurs en face de lui, plutôt jeunes, immobiles, presque endormis. Quel intérêt pouvait-il trouver à attendre des heures un poisson qui ne mord jamais? Peut-être simplement attendait-il la fin du monde dans ce coin de paradis? Le doute. Ce coin de paradis où résidait le diable. Marc cherchait à puiser au plus profond de sa mémoire, sans percevoir exactement pourquoi le récit de Grand-Duc avait déclenché en lui comme une alerte. Un détail troublant, une anomalie. Quelque chose ne collait pas. Marc essaya de se concentrer davantage, mais il était de plus en plus persuadé que ce détail était inscrit dans sa mémoire mécanique. Quelque chose qu'il avait appris par cœur, qu'il connaissait, mais qui ne reviendrait que s'il tenait un bout du fil, un point de départ, un mot. Il chercha encore, sans succès. Il était simplement certain que ce détail était sagement rangé dans sa chambre, dans ses affaires, rue Pochol, au Paulet, à Dieppe. Qu'en fouillant, il trouverait. Était-ce urgent ? Quel rapport avec le reste ? Le grand voyage sans retour de Lily. Dieppe n'était qu'à 2 heures de train. Il fallait aussi qu'il parle à Nicole. Cela attendrait. De sa main fébrile, il tourna la feuille déchirée et lut la dernière page. «